Donc dans le partenariat, on était avec Jean-Luc, le représentant de l'Alliance évangélique de Suisse romande. Et sur place, on était avec Fourpou, le représentant de l'Alliance évangélique de Suisse, du Tibet. Pardon. Et on voit Jean-Charles qui était en haut de son premier pic à 4307 mètres, qu'on peut applaudir Jean-Charles. Bravo Jean-Charles, bel effort. Le but, principalement 80% du trek, c'était de marcher dans la montagne, à des altitudes qui sont montées jusqu'à 5400 mètres, donc c'était un vrai défi pour nous tous en fait. Compassion pour le peuple népalais et unité spirituelle, c'était le but du voyage. Donc j'ai scindé ça, on s'est mis d'accord, on a scindé ça en trois voyages. Le voyage collectif, donc ce qu'on a vécu entre nous, le voyage extérieur, la rencontre avec les Népalais, et le voyage intérieur, ce que Dieu nous a enseigné, et ce que nous on a ramené ici. Et ouais, grosse claque. Pour la petite, on va juste venir derrière. Ça, la photo qui est derrière, c'est la vue qu'on a eue quand on est arrivé au pic à 5400 mètres en haut du Gokyo Peak. Il y aura des photos à la fin du culte d'Everest, et sur cette vue-là, on avait vu sur 5 des pics, sur les 14 pics à plus de 8000 mètres, sur les 14 pics mondiaux. Le voyage collectif, on avait un voyage donc avec un groupe de 23 à 67 ans, et vraiment ce qu'on a vécu qui était rapidement vraiment impressionnant, c'est l'unité de groupe qu'on a ressenti. Tout de suite, on se connaissait pas, il y a eu vraiment cet esprit qui nous a unis, et on était vraiment dans la dépendance à Dieu entre nous, et c'était quelque chose qui nous a tous marqués. On en parlait durant le trip, on connaissait pas en fait, on se connaissait, on était quatre, et tout le monde était ensemble à prier les uns pour les autres. On n'avait pas de réseau, on marchait dans la montagne, on vivait vraiment cette sensation de vivre comme dans les Actes des Apôtres. C'était assez intense. Donc ça, c'est le groupe. On a nos guides Sherpa qui sont en dessous, Dolly, Fourpou, Tsiling et toutes les autres églises de Suisse et les différents représentants qui étaient avec nous. Donc voilà. Et Freddy, 67 ans, qui l'a fait dans la souffrance, mais il est monté pas jusqu'à 5004 juste avant, mais il est monté. Donc gros big up à Freddy, qui élève des abeilles en Suisse. Voilà. Le voyage extérieur. Et alors là, c'est une femme, les amis, qui nous a tous marqués énormément. Dolly. C'est une femme qui... je suis ému quand je parle d'elle, parce qu'elle nous a mis des claques de vie tout le long du voyage, quoi. Elle était tout le temps... excusez-moi, je suis ému, parce que cette femme, elle nous a... waouh, bouleversés. Elle ressuscite des morts avec l'esprit de Jésus encore aujourd'hui. Elle fait sortir des paralytiques des chaises. Mais c'est pas une parole, c'est pas on dit ça pour dire à l'assemblée, ouais, regardez, Jésus fait ça. Non, non, Jésus fait ça, là, à 10 heures d'avion, il le fait vraiment, quoi. Et on s'est dit, mais waouh, comment cette femme-là, aujourd'hui, elle arrive à délivrer une telle onction et une telle puissance de Dieu. Enfin, comment elle fait ça, quoi. Et ce qu'on a vraiment perçu avec elle, c'était ce que vous nous enseignez souvent en ce moment. Il y a une journée en particulier, Carole, elle était pas bien du tout. On passait les 5000 mètres d'altitude, elle avait le mal des montagnes. C'est l'horreur, le mal des montagnes, elle avait envie de vomir. Enfin, il s'est passé des choses vraiment pas belles. Et Dolly, elle venait nous chercher toujours un par un, elle disait, c'est ensemble qu'on fait les choses. Elle venait nous chercher dans le trek, elle nous prenait par la main, elle disait, non, on va prier ensemble. Et waouh, et c'est ce que vous dites tout le temps depuis des semaines, mais c'est ce que ces gens-là vivent aussi à l'autre bout du monde. Dépendance totale à Dieu, j'y reviendrai après parce que c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, là, waouh, enfin vraiment l'onction est délivrée, quoi. Le combat spirituel et les persécutions, elle est toujours en train de combattre, toujours les mains en l'air dans la montagne. Il faut savoir que toutes les montagnes au Népal sont des autels consacrés aux idoles. Sur tous les drapeaux de prière que vous voyez là, c'est des drapeaux en fait de prière justement. C'est pas des beaux drapeaux qu'on voit à la fin des randonnées, hein. C'est toutes des prières bouddhistes et hindoues qui viennent garder les lieux. Il y a des feux qui sont faits en haut, des holocaustes qui sont faits en haut, et ces grosses montagnes-là, en fait, règnent sur toute la vallée et emmènent cette pauvreté, cette chape de plomb qu'il y a vraiment là-bas. Et ouais, elle va en haut, elle lève les mains au ciel, elle prie, elle pète ces hôtels-là. Et c'est un petit bout de femme de 1m50. Waouh, waouh. Et on a chanté avec le groupe que ton nom résonne en ce lieu, en haut des pics. On était avec notre petit téléphone, c'était Jean-Charles qui nous a motivés à faire ça. Et ouais, c'était... je vous en parle, c'est vraiment encore... Je revis cette émotion qui était magnifique. Et voilà. Conversion rapide des cœurs, oui. Pendant le trek, elle marche, elle croise quelqu'un, elle dit « Ok, Dieu m'a dit de lui parler ». Elle va parler vers cette personne. des gens qui portent des crottes de yak pour aller faire du feu, soit dit en passant. Elle leur partage l'évangile en 10 minutes. Elle ne cherche pas à comprendre, elle ne cherche pas à se dire est-ce qu'on doit avoir une technique pour parler. Elle ressent la chose, elle la délivre. Il y a une personne qui est revenue dans le trek avec son sac à dos de 20 kilos pour la retrouver, pour lui dire c'est quoi ce truc de dingue que je viens de vivre, quoi. Malléable, c'est le mot que j'ai marqué en haut. C'est une personne qui est malléable. Elle accepte de se dire, si Dieu me dit d'aller là, dans son quotidien, elle n'a pas enfermé la journée qui vient, elle n'a pas enfermé ce qui allait venir. Elle fait sa journée. Elle nous disait toujours, avec sa voix, elle passait du temps avec Caro aussi, elle nous disait toujours la phrase suivante. « If you have strong faith, God can use you. » Si tu as une foi forte, Dieu peut t'utiliser. Elle nous disait ça tout le temps. « Strong faith, God can use you. » Et c'est vraiment le cœur de ce qu'elle vit. Elle a une foi forte, elle a une confiance forte en Dieu. Elle se pose plus de questions, elle y va, quoi. Oh, alors là, encore une deuxième claque. Hein. Rencontre avec un groupe de jeunes. Là, je vais essayer de ne pas pleurer parce que c'était waouh. Le prix de leur foi en Jésus. Ces jeunes-là, il faut savoir qu'ils ont entre 20 et 25 ans. Ils ont tout perdu, quoi. Leur famille, leurs amis, ils disent non à tout. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler avec eux, c'est des églises de maison, c'est des églises d'immeubles, enfin c'est des endroits un petit peu, à l'arrache, quoi. Et on a rencontré ces jeunes-là. Déjà, la première chose qui nous a fait waouh, c'est l'unité. On a ressenti le même esprit. Des gens complètement rien à voir dans leur façon de vivre, dans leur façon d'exister, rien à voir. Mais ce qui dégageait, on sentait vraiment l'esprit de Jésus. On a eu des témoignages de certains. Ils ont tout perdu. C'est-à-dire que ces 10 heures d'avion, les amis, c'est pas dans un autre monde, hein, on est dans le même monde. Leur famille les rejette, mais c'est pas à dire je viens une fois à Noël, je viens voir les copains. Hein. C'est terminé. Les familles, c'est terminé. On vient plus vous voir, on vous rejette. Donc je vous imaginez la notion de la pensée du père qu'ils ont. Et on a témoigné de ça avec Jean-Charles. Jean-Charles, il a fait son témoignage et il leur a amené la notion du père, en fait. C'est-à-dire la pensée du père que eux ils ont, elle est catastrophique parce qu'en fait, il les rejette, il les dégage de façon très sèche. Et lui, il a essayé de ramener cette pensée de « Mais votre père céleste, c'est pas votre père terrestre. » Et vraiment, cette dualité entre les deux, il faut remodeler toute cette pensée parce que pour eux, s'ils disent « Bah oui, c'est un papa Dieu, mais mon papa, il est comme ça », c'est « Waouh, le truc, il est pas dingue, quoi. » Et donc, on a essayé de témoigner et remodeler ça et c'était juste magnifique, quoi. Deuxième, ouais, amen, franchement, c'était waouh. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est que c'est les parents qui sont là-bas. Moi, je suis parent, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de parents ici. J'imagine même pas sortir de la CBM et qu'on me dise avec une staffette de police, tu crois en Jésus ? Ouais, je crois en Jésus. Ok, c'est direction prison. Et c'est pas comme ici, hein, c'est pas, il y a de la DAS, il y a des choses pour garder vos enfants, hein. C'est les enfants dans la voiture, on les met devant, débrouillez-vous, fin du bal. Hein. Et il y a des parents qui vivent ça là-bas. On a aussi un jeune ici, je ne sais plus c'est qui a fait 7 ans de prison là. Kebron aussi. Ça, c'est des choses qu'en fait on voit de loin, qu'on entend de loin, et qu'on n'intègre vraiment pas dans la réalité de ce que ces gens-là vivent. C'est le prix de leur foi par rapport au prix de notre foi à nous. C'est deux mondes. Alors, il n'y a pas une meilleure foi que d'autres. Hein. C'est dans leur pays, c'est comme ça. Dans notre pays, c'est comme ça. Mais il y a toujours une réalité qui s'impose à nous qui est toujours... Waouh. Enfin... C'était vraiment un moment intense. Le voyage intérieur, ce que Dieu nous a enseigné pendant le Népal. Ok, ils vivent dans une pleine dépendance à Dieu. Ils n'ont pas le choix. C'est un luxe, quelque part, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de dépendre de Dieu. Donc ils n'ont pas tous les filets de sécurité qu'on a. Et c'est la réflexion qu'on a eue tous ensemble, quand on a commencé à se parler pendant ce voyage, parce qu'on prenait vraiment des claques de réalité, nos sécurités occidentales et leur poids dans notre capacité à dépendre de Dieu. Notre confort, nos logements, le travail, les soins médicaux, l'église cocoon. M'attendez pas avec des lance-pierres ou avec des fourches, je vais expliquer. Tout va bien à l'église, c'est super. Nos raisonnements, nos grandes connaissances théologiques, nos outils modernes, etc. En fait, on s'est rendu compte que dans tout ce confort qu'on a là, on a la chance d'avoir une église super, d'avoir des gens, d'avoir des enseignements. Vous avez plus de connaissances théologiques que moi sur plein de domaines, j'en suis sûr. Mais finalement, on s'est tous posé comme question, c'est... On a 80% de notre autonomie, de notre vie, en fait, qu'on a mis en place, qu'on, voilà, tout fonctionne. Ou moi, je mets pas de Dieu dedans, finalement. J'achète mon logement, je sais pas, j'ai mon travail, j'ai ceci, j'ai cela. C'est évident. Et finalement, on n'inscrit pas Dieu dans ces choix-là. Et c'est uniquement une fois qu'on est vraiment, waouh, là, Seigneur, je peux plus gérer ça, quoi. Là, c'est la galère, ça, c'est l'horreur, j'en peux plus, là, maintenant, Dieu, je te donne mes 20% de vie où je galère. Et finalement, si on avait inscrit Dieu dans nos 80%, est-ce qu'on aurait eu besoin de Dieu dans ces 20%-là? C'est ce qu'on s'est posé comme question. Dieu nous a montré durant ce périple que ce sont nos sécurités et nos acquis, donc ce que je viens d'expliquer, qui nous conduisent peu à peu vers l'autonomie. Une autonomie qui finit par étouffer notre dépendance envers lui. Ce que vraiment on a compris, en fait, c'est que cette Dolly-là, cette népalaise, ce qui fait que Dieu agit puissamment en elle, c'est deux choses. Dépendance et vraiment malléabilité, et enfin, je veux dire, elle ne se repose sur aucun acquis. Sa journée commence, on verra bien. Et j'ai cherché ce mot autonome, parce que j'arrêtais pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'autonomie dans mes sociétés, j'aime que tout soit autonome, que tout fonctionne. Et inconsciemment, je le calque un petit peu sur ma vie. Et Dieu me travaillait sur ce mot par rapport à ce témoignage. Le mot autonome, c'est soi-même, par soi-même, loi-règle, qui fonctionne selon ses propres règles. Alors on n'arrête pas de se dire toujours, on a envie d'être autonome, on a envie de vivre, on a envie de tout mettre en place, on a envie d'être autonome. C'est le truc sur les réseaux, faut être autonome, c'est super, faut tout gérer. Et finalement, je me suis rendu compte avec le groupe que cette autonomie-là, ben on commence à faire un petit peu notre propre règle. On commence à faire notre propre image, notre propre Dieu, à nos besoins. Et finalement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois, dans des situations où je voulais aller dans une direction, je commençais à justifier ma volonté par des versets bibliques. Je sors les versets bibliques de leur contexte, je sortais, et je peux justifier certains actes, certaines volontés, certaines envies par des versets bibliques qui sont sortis de leur contexte. Et je me suis rendu compte que parfois je fais Dieu à mon image, à ce que j'ai envie de voir, je crée un Dieu qui est super, un Jésus qui est magnifique, mais pour ce que moi j'ai envie de voir apparaître dans ma vie, même si je ne me l'avouais pas, il y a une volonté quand même de se dire « Ouais, mais j'aimerais bien aller là, Seigneur, j'enferme un petit peu Dieu dans ma pensée humaine, et je lui laisse pas la place dans sa pensée céleste. » Et c'est pour ça que j'ai mis Jacques 1:22, ça m'a parlé énormément. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comme cette femme que vous avez vue à la PO qui s'était transformée en homme, elle était persuadée qu'elle allait avoir du sperme. Elle était persuadée de ça. Elle était fervente en Christ, elle avait la foi, elle s'était dit « Mais oui, mais je veux en avoir. » Et en fait, elle avait pris qu'une partie de la Bible qui l'intéressait. Elle s'était trompée elle-même par ses propres faux raisonnements. Mais Dieu est bon et l'a ramenée. Mais alors, comment faire pour rentrer à nouveau dans la dépendance à Dieu et manifester la même puissance que ces Népalais? Parce que c'était là tout l'objet de notre discussion avec le groupe, dans l'avion, dans cette Dolly, quoi, pour redescendre sur Terre après. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur. Pierre, tu veux retrouver cette dépendance-là, tu veux retrouver cette puissance, ces déserts présents. Ok, le désert. Vous connaissez tous l'histoire, 100 fois mieux que moi. Si je fais des erreurs théologiques, Jean-Marie, tu me le dis. Tu me lèves la main. Comme d'habitude, dans le fouet là. Ok, très bien. On fait ça là-bas. Le peuple israélite sort du désert. Bon, très bien. Ils sortent d'Égypte. Ok, ils sortent. Et là, Dieu commence à leur dire quoi? Je veux juste que pendant ce temps-là, vous soyez dépendants de moi. Je veux juste que vous soyez dépendants de moi. Et quand j'ai fait la recherche, je me suis dit, c'est dingue. La sortie d'Égypte à la frontière israélienne, c'est Montbé-Strasbourg, quoi. C'est Montbéliard-Strasbourg. Moi, j'étais, enfin, peut-être que vous savez tout ça, mais moi, ça m'a émerveillé. Je me suis dit, mais c'était juste à côté, le truc. Et en fait, pendant ce temps-là, Dieu a demandé une chose, c'était vous dépendez de moi. Vous prenez la manne du jour. Vous mettez rien pour le lendemain. Si vous mettez de la nourriture pour le lendemain, ça pourrit. Vous dépendez juste de moi. Je veux juste voir si votre comportement, là, vous êtes prêt pour rentrer dans la terre promise. Je veux juste vous faire un petit test, et puis on voit. Donc, il se balade. Bon, ben, moi, le premier, hein, ouais, j'ai pas envie, Seigneur, ça me saoule, ton truc, là. J'ai pas envie. Moi, je veux faire comme j'ai envie, blablabla. Et donc, Moïse envoie quand même 12 espions. Les mecs, ils se disent quand même, bon, on a une colonne de feu de 25 mètres devant le camp tous les soirs qui s'allumine. Jusque-là, tout est normal. On a failli se faire zigouiller par les Égyptiens. Il y a la mer qui s'est ouverte entre deux. Tout est normal. Je vis la journée, je me balade, il y a des nuées qui nous disent où on va. Il y a de la nourriture qui tombe. Tout est normal. Je veux dire, les mecs, ils voient des miracles comme nous, on verra jamais sûrement. Mais tout est normal. Ils mettent encore la parole de Dieu en doute et ils disent « Allez voir si c'est vraiment la terre promise. » Ils vont voir si c'est la terre promise. Vous connaissez l'histoire, les 12 espions reviennent. Bon, ben, Moïse, bon, bonne nouvelle, Dieu, il a pas dit nimp. C'est bien la terre promise, c'est beau, c'est magnifique, c'est waouh. Il y a les plages, c'est fertile. Là, on va pouvoir faire un truc super, Moïse, c'est génial. Petit détail, petit souci. Il y a des Anakim, il y a des gens, ils sont organisés comme jamais. Ils ont des forteresses de ouf, ils sont organisés, nous, on est avec femmes et enfants. Moïse, on va là-bas, on se fait zigouiller. C'est pas la peine. Et il y a Caleb et Josué qui sont là. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah non, nous, on est chaud. Nous, on est chaud. Nous, on est bouillants, les gars. Regardez, il y a une colonne de feu de 25 mètres devant le camp tous les soirs. Il y a des miracles de fou, la puissance de Dieu est là. Nous, on y va. Dieu a dit que, on y va, on est chaud. Et Dieu, il m'a arrêté juste là. Juste là. Il m'a dit, regarde, Pierre, t'as le groupe des gens qui vivent leur vie, qui vivent leur prière, qui vivent toutes choses. Et au moment de passer juste le pas de foi pour se dire, ok, maintenant, parce que depuis le début, c'est Dieu qui fait. La mer, la colonne de feu, la nourriture, les mecs sont comme ça, ils se baladent, hein. Ok, on se balade, Dieu nous guide. Mais au moment donné où ils disent, maintenant tu y vas. Maintenant je te demande juste un pas de foi pour y aller, eux ils y vont pas. Et il y a les Caleb et les Josué, eux ils y vont. Vous connaissez toute la fin de l'histoire. Ils vont errer dans le désert. Ils ont toujours la présence de Dieu. Hein. Il y a la colonne de feu, ils continuent. Les deux seules personnes qui verront la terre, c'est Josué et Caleb. Moïse la verra de loin, mais il y a les deux seuls qui rentrent sur tout le peuple, c'est Josué et Caleb. Et je me suis dit, on peut être tous dans le même endroit. On peut vivre tous une réalité commune comme on est là, mais l'individualité par rapport à son Dieu, soit tout seul face à son Dieu, elle est différente pour tous. Et vraiment, je me suis posé cette question, est-ce que je suis un Josué et un Caleb, ou est-ce que je suis comme tous ces autres, en fait, personnes ? J'aurais pu mettre Josué, Caleb ou Dolly, parce que c'est elle qui m'a inspiré ça, cette népalaise. Et je me suis dit, je fais partie finalement de quel groupe de personnes ? Est-ce que j'aurais eu le courage de faire ce pas de foi dans le vide quand finalement, j'en ai pas du tout envie et que je ne comprends pas. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point, le présent. Dans ce présent, ils ont eu le choix, en fait. Caleb et Josué, ils ont eu le droit entre se dire, moi, je vais choisir la pensée de Dieu, je vais mettre un terme et je vais faire taire toutes mes pensées, tout ce qu'il y a en moi qui, finalement, n'est pas de la pensée de Dieu, je le mets de côté. Et il reste dans ce présent. On y va, on va le faire. Moi, vous savez, j'ai des entreprises et j'ai ouvert ma dernière entreprise juste avant le Covid. Le Covid arrive, on est à la maison et alors là, c'est le folklore. Dans ma tête, c'est le why. Comment je vais faire ? Oh, je vais retourner chez les parents, c'est terminé. Je vais arriver chez moi, c'est fini là, les boîtes, elles vont couler, c'est même pas la peine. Donc j'avais les pensées de peur, d'angoisse. Vous voyez cet esprit de mort qui vient influencer sur les pensées futures qui n'existent même pas. Et finalement, je commençais à vivre un présent qui n'existait pas. Et j'étais en train de me dire, mais attends Seigneur, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et je vivais une angoisse permanente entre, mais non, mais regarde, ton futur, ça ira pas, ou ton passé, ça ira pas. Ça, c'est calcable sur un millier de situations. Mes blessures dans ma jeunesse, peu importe, tout ce qui nous empêche finalement dans le présent de dépendre de la parole de Dieu et vraiment de cette présence de Dieu. Et alors, je me suis dit, mais... Et je finis juste là-dessus, j'ai pas fini le point. Et finalement, j'étais très angoissé par rapport à ces sociétés, par rapport à tout ce qui allait se passer. Et il y a un jour, Dieu m'a amené à un endroit, il m'a dit, Pierre, ok, maintenant, fais-moi confiance. Et je me suis mis dans ma douche, parce que moi, je prie dans la douche, la facture d'eau, c'est catastrophique. Et vraiment, je commence à prier, et je me dis, mais Seigneur, ok, je suis en train de vriller là. Je veux que ta volonté soit faite. Même si demain le restaurant ça coule, même si demain tout coule, ok, fais ta volonté, parce que je sais que t'as un plan glorieux, je sais que ça va être magnifique. Et même si c'est pas dans ma propre pensée, je ne veux pas t'enfermer dans ma pensée, dans les imaginaires de projets que je pense que tu as pour moi, mais je veux vivre dans une réalité qui est la tienne. Et si aujourd'hui tu me dis, va vider le lave-vaisselle parce que ça fait plaisir à madame, elle est fatiguée quand elle rentre du travail, ben des fois c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça le présent de Dieu. C'est pas des grands trucs de ouf. Hein. Et vraiment, je me suis dit, mais attends, comment faire pour arrêter cette folie là de penser de j'ai été rejeté plus petit, je vais pas y arriver, je commence à vivre des angoisses. Et puis Satan, c'est ça. Hein, c'est je joue avec ton passé, je joue avec ton futur, je joue avec ton passé, je joue avec ton futur. Et puis pendant ce temps-là, t'as Dieu qui est dans le présent, qui attend, bah écoute, Kiki, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et là, vraiment, j'ai eu cette pensée. Et maintenant, le matin, vraiment, je prie comme ça. Seigneur, selon Hébreux 4:12, tu dis dans ta parole que la parole est vraiment plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, allant jusqu'à séparer âme et esprit. Seigneur, je te demande de séparer en moi ce qui vient de mon âme et ce qui vient de mon esprit. Que je comprenne ce qui vient de mes sentiments et de mes émotions. Et par la révélation de ton esprit, je te demande d'infuser en moi des pensées qui viennent de toi. Je veux vraiment unir mon esprit humain à toi, Saint-Esprit. Et je veux que par ton esprit de révélation, tu me donnes de comprendre concrètement ce qui vient de tes pensées et ce qui vient de mes pensées, ce qui vient de ta volonté et ce qui vient de mes émotions. Et à ce moment-là, j'ai toujours des pensées qui viennent, mais je sais que celle-là, ouais, ça c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est cette pensée-là que Dieu veut pour moi. Et c'est vraiment ce... Depuis que je fais cet exercice-là, ça va quand même vachement mieux. On dirait pas comme ça, mais ça va mieux. J'ai été réveillé à 2h du matin, et c'est cette phrase-là qui m'a été donnée. La pensée entretenue crée une émotion. Bah oui, la Josette, là, dans le groupe, je peux pas la voir, celle-ci. Hein? Donc on a commencé à avoir une émotion, on est un petit peu pas bien avec elle. Et j'ai bien marqué entretenue, parce que des pensées, c'est normal d'en avoir, mais on entretient cette pensée. Et l'émotion entretenue crée un état d'âme, ça s'installe en moi. Ah, mais celle-là, je peux pas la voir, hein. Oh la vache, l'autre, là, je ne peux pas la saquer, quoi. L'état d'âme entretenu crée la parole. Et donc, ce qu'on avait en pensée commence à parler, commence à être créé, commence à sortir dans la réalité spirituelle. Et la parole crée ton état d'esprit qui devient ta réalité. Et d'une simple petite pensée qu'on était là, ouais, peut-être que c'est devenu ma réalité que je vis aujourd'hui. D'une simple petite pensée que j'ai pas rendue captive en Christ, c'est devenu ma réalité. Et c'est vraiment pour ça que souvent dans des prêches, on entend ayez la pensée de Dieu, ayez la pensée de Dieu. Mais ça veut dire quoi, la pensée de Dieu? Tu es une créature merveilleuse, tu vas y arriver. Enfin, toutes des paroles valorisantes. Et aussi, un entourage qui permet de nous ramener finalement dans ce présent avec des paroles, avec avec de la joie. Et c'est tous ces gens, en fait, qu'est-ce que font tout le monde? Moi, quand je commence un peu à vriller, qu'est-ce qu'ils font les gens qui me soutiennent? Mais non, Pierre, il me ramène dans le présent. Et en fait, ce qu'on fait tout le temps, c'est ramener les gens dans le présent. Dieu, il est là. Non, non, mais attends, je vais pas y arriver, puis j'ai divorcé, puis là, c'est le carnage avec ma femme, avec mon mari. Non, non, mais là, aujourd'hui. Pas, c'est foutu, hein, pas demain, c'est maintenant, il se passe quoi? Et c'est vraiment cette pensée, ou toute pensée non captive en Christ sur la durée, crée un état d'âme et d'esprit d'errance dans une réalité qui n'existe pas. Finalement, on est là, et on dérive tout doucement, tout doucement. Combien de gens on a entendu dire « Je sais pas comment j'ai fait pour en arriver là. » Alors que tout va bien dans ma vie. Ouais, mais peut-être que la relation avec le pote, c'était peut-être celle-là qu'elle voulait pas. Peut-être que, ben, tu vois, cette petite habitude que tu crois où tout va bien, ben, tout doucement, elle te fait dériver. Et je suis persuadé aujourd'hui que si on met, pour ma part, si vraiment je remets tout à Dieu, mon logement, le choix de mes véhicules, le choix de mes amis, le choix de tout ce que je mets en place, je suis persuadé que Dieu va s'inscrire dans certaines choses que je considérais comme acquis, qui va me dire « Mais non, regarde sa façon de bosser, là. » Tu peux peut-être faire comme ça. Et puis aujourd'hui, si tu as envie de parler à ton salarié, tu peux peut-être lui parler comme ça. Ça va peut-être permettre de l'aimer, de permettre qu'il ait aussi il se sente mieux, ou ceci, ou cela. Et je me suis dit, vraiment, il faut que je sorte de ma pensée humaine où j'enferme Dieu dans mes raisonnements. Jacques 1:22, je me trompe par mes propres faux raisonnements. Et que je laisse pleinement la place à Dieu de prendre place vraiment dans chacune des parties de ma vie. Et c'est vraiment, je suis persuadé que ce melting pot de notre base solide, de nos 80% là, si un jour elles sont ébranlées, qu'on se prend une bombe sur le coin de la figure, et puis que du jour au lendemain on n'a plus la même liberté qu'on a ici, on va se retrouver face à une réalité, on va se dire waouh, ok, maintenant Dieu. Et le seul moment où je me suis vraiment toujours retrouvé face à Dieu, où j'ai vécu les plus beaux moments avec lui, c'était quand il me ramenait dans les grosses galères. Alors avant, je me disais, mais pourquoi telle galère? Et à la fin, je me suis dit, mais quand je vis telle galère, quand je vis telle épreuve, c'est Dieu qui me dit « Ouh, je voudrais juste reconnecter avec toi. » J'ai mis quelques versets qui parlaient des pensées. Bon, il y en a plein. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas de nous-mêmes. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Les raisonnements de toute hauteur, c'est tout le truc que je me suis mis dans la tête, que j'ai imaginé, que j'ai conçu par mes raisonnements à moi, comme imaginant que ça vient de Dieu. Tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Bon, la barre est haute, hein, parce que moi, le mec, il me coupe la route, ma pensée n'est pas honorable hein, du tout. Mais bon. Je finis avec ça, sur la capacité de dépendre de Dieu et de réussir à vivre ce que cette femme-là vivait au Népal. C'est une prière de John Piper que j'avais eu ça il y a 10 ans. Et vraiment, elle me permet tout le temps de me recentrer, moi, dans une dépendance face à Dieu. Elle me recentre constamment en face de Dieu. J'admets déjà que je ne peux pas le faire. Bon, oh, Seigneur, la Josette, là, j'espère qu'il n'y a pas de Josette. S'il y a une Josette, on t'aime. Il y a une Josette? Non, il n'y a pas de Josette. Ok, parfait. Oh, la Josette, là, je ne l'aime pas du tout. La Josette, je ne l'aime pas, Seigneur. J'admets que je ne l'aime pas, que je n'arrive pas à le faire par mes propres forces. Seigneur, je te demande de la sortir du groupe de maison, la sortir de l'église. Fous-la dehors. Je prie, Seigneur, que tu la foutes dehors. Et je crois, Seigneur, que tu vas le faire. Je crois que tu es en train d'agir. Et je veux vraiment... Les deux derniers peuvent être switchés ou mis ensemble. Je veux vraiment te remercier, Seigneur, parce que je sais que tu as déjà fait. Je veux vraiment te remercier parce que je sais que tu vas agir et que tu vas me libérer de l'influence de cette personne. Et tu commences à agir, tu commences à avancer. Et là, Dieu, il te révèle que la Josette, en fait, elle a été abusée, qu'elle a vécu l'horreur. Elle est devenue amère. Elle n'arrive plus à gérer ses émotions. Elle est devenue vraiment amère parce qu'elle est triste. Et tu commences à développer de l'amour pour elle. Tu commences à développer de la compassion. Et finalement, tu pensais que Dieu allait la sortir du groupe, ça allait te libérer, et il l'a fait d'une manière complètement différente. Et on a, à ce moment-là, on devient malléable. On a la capacité de laisser Dieu agir pour nous remettre dans le présent. Éphésiens 3, 20. Et c'est les trois derniers versets que je vous mets qui m'encouragent énormément. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc pas moi. Et ça, c'est encourageant quand même. Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Au-delà de tout ce que j'imagine, Dieu il va faire au-delà. De tout ce que je crois bon pour moi, il nous a conçus dans notre personnalité, dans notre mode de fonctionnement, et il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais ça, on l'entend, ok. Mais le vivre, c'est différent. Je dois accepter que ce que je vis va peut-être être différent de mon idéal, de ce que je me suis projeté dans le futur, mais je veux vivre ce présent. Et c'est vraiment ça que le Népal m'a remis en face, c'est ils vivent ce présent, ils n'ont pas de sécurité, c'est là, ils n'ont pas le choix. On avait commencé le Népal, on est arrivé avec une pochette de médicaments, là. On avait une infirmière, on était chaud patate, hein, on était prêt à en découdre. Et le guide Fourpouille nous dit, mais attendez les gars, vous n'avez même pas laissé la chance à Dieu de vous montrer que vous n'avez pas besoin des médicaments. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça déculpabilise quand même. Ça ne vient pas que de nous, heureusement. Or, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Soyez bénis, les amis, je vous aime. Seigneur, excellent Père de grâce, je veux te remettre chaque personne qui est dans cette église, chaque frère et sœur qui est ici. Seigneur, rends captive leur pensée en toi. Donne-leur, Seigneur, la capacité, donne-nous, Seigneur, la capacité de vivre ce présent parfait où tu es. Toutes les pensées qui m'assaillent de peur, d'angoisse, de colère, de mon état va rester comme ça, je vais rester comme ça toute ma vie, je ne vais pas y arriver. Ton état actuel n'est pas ton état futur, dit Dieu. Ton état présent n'est pas celui qui sera demain si tu le laisses vivre dans ton présent. Je veux te remettre cet instant, Seigneur. Je veux te demander de faire descendre sur chacune des personnes ici une onction de révélation dans ta connaissance à toi. Tu es Adonai Tzevaoth, le chef des armées. Par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang, viens rendre captif toute pensée. Seigneur, dans ta parole, selon Matthieu 15:13, tu dis que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Alors toute plante aujourd'hui qui n'est pas plantée de Dieu est déracinée dans le nom de Jésus. Toute plante en chacun de nous qui n'est pas de Dieu, confusion, addiction, impureté, choc émotionnel, ça dégage dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te demande vraiment cette chose aujourd'hui, que chacune des personnes qui est dans cette pièce puisse entendre ceci à son dernier souffle. Bon et fidèle serviteur, tu as combattu le bon combat. Rentre dans la joie de ton maître. prends la couronne de justice et viens dans les parvis de vie avec moi. Que cette parole sincèrement soit le partage pour chacune des personnes qui entend ça aujourd'hui. Soyez richement bénis. Amen.
On peut se lever et juste dire à Dieu, Seigneur, vous êtes comme moi, vous avez entendu les mêmes mots, amen. Juste dire, Seigneur, on est devant toi et pardon pour le confort évangélique. Pardon, Seigneur, il faut que Jésus prenne la première place. Je suis pas contre, il y a du chauffage au sol, il y a des lumières, c'est super. Mais si après, ça fait que tu te reposes sur ça, au lieu d'avoir Jésus en premier, est-ce qu'on peut chacun à sa place commencer à prier et dire, Seigneur, prends la première place. Prends la première place. Et vous savez que Dieu, faut pas que annoncer un évangile bisounours. Dieu, il peut retirer des choses de ta vie pour être sûr qu'il reprenne bien la première place. Ton mari n'est pas la première place, tes enfants n'est pas la première place, ton métier n'est pas la première place. Seigneur Jésus, nous prions, prends la première place. Prends la première place, Seigneur Jésus. Pardon, pardon si c'est nos études, nos pensées, notre style, nos dons, notre voix, notre ministère. Prends la première place, Seigneur Jésus. Et si vous sentez ce oui en vous, juste est-ce qu'on peut lever nos mains vers Dieu et dire oui, Seigneur, prends la première place à la CBM, Seigneur Jésus. Prends la première place. Attention, Dieu vous voit. Hein. On lève pas les mains parce qu'on est dans la vibe. On lève les mains parce qu'on a envie de dire Jésus, tu prends la première place. J'ai envie de te poser une question. Si Dieu te retirait tout de suite le foot, comment ça va? Comment ça va s'il te le retirait? Est-ce que ça va aller parce que de toute façon, t'as Jésus? Et si tu perdais ton poste, est-ce que c'est pas grave puisque de toute façon, t'as celui qui pourvoit? Amen. Seigneur Jésus, nous prions, prends la première place. Prends la première place. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, plusieurs fois ensemble, des décrets? Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place, Jésus. Prends la première place. Et le peuple de Dieu dit amen, amen. Soyez bénis. Amen. Merci Pierre.
Il y a Charles Spurgeon qui disait, je crois que c'est Charles Spurgeon, c'est dans la mer de souffrance que l'on pêche les plus belles perles. Et ouais, merci Pierre pour ce que tu as partagé. Alors on s'était calé ensemble pour que moi je vais partager la parole plus rapidement. Merci pour le témoignage, les encouragements. Je pensais que tu allais développer encore un peu plus le côté persécution. On l'a dit très, très simple. Il a dit très simplement. Moi, j'étais avec lui quand il est revenu et il m'a dit, en fait, si tu donnes ta vie à Dieu, tes enfants, il a dit, on vous les met au bord de la route. Mais au bord de la route, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est orphelinat pour le meilleur des cas. Tu me dis, si je me trompe, c'est orphelinat pour le meilleur des cas ou prostitution. Ça veut dire ça. Aujourd'hui, c'est des bouddhistes, c'est hindous, bouddhistes. Et c'est souvent des religions, quand vous discutez dans le monde séculier où vous êtes, où on se dit que c'est des choses pacifiques. Alors ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des religions pacifiques, réellement. Et c'est ça la réalité. Et du coup, quand il y a des témoignages comme ça qu'on entend, il y avait aussi un témoignage à porte ouverte, où il y avait les jeunes qui étaient avec quelqu'un qui venait de l'église persécutée. C'est terrible ce que les gens vivent. Et c'est toujours difficile de faire un comparable. Et Pierre, tu l'as très bien expliqué, c'est qu'à la fois on est très proche, on l'a dit, c'est 10 heures d'avion, c'est des frères et sœurs, c'est des gens pour qui on prie, à la fois on est très proche et à la fois on est très loin parce que notre réalité, elle est tellement différente, tellement différente. Et ce matin, j'avais juste deux versets, et principalement un d'ailleurs, tu peux t'en occuper de ça. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et surtout le début, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et je crois qu'il nous faut vraiment prendre conscience de cette réalité. Ce n'est pas un verset biblique qui s'applique uniquement dans les endroits où l'Église est persécutée. C'est un verset biblique. Vous savez, il y a beaucoup de versets où souvent on se dit « Ah, ça, c'est pas pour moi, c'est pour le frère ou la sœur qui est là. » Ou d'autres versets, on se dit « Ça, c'est pas pour moi, c'est pour là où l'Église est persécutée. » Et en fait, c'est un verset pour nous aujourd'hui. Et vraiment, je l'ai senti fort dans mon cœur, notamment quand on avait parlé avec Pierre, qu'il faut qu'on prenne conscience de cette réalité. Le diable est méchant, est profondément méchant. Et souvent, on n'aime pas trop parler du diable. On parle tout le temps et on fait bien de Dieu, évidemment, de la louange, de tous ces sujets-là. Et je ne vais pas parler du diable ce matin, mais je veux juste qu'on prenne conscience de cette réalité. Et dans ce verset, il y a une image de violence. C'est un vocabulaire violent quand vous lisez les mots un après l'autre. Ça commence par adversaire. Ça veut dire si c'est un adversaire, ça veut dire que c'est un combat. C'est un lion qui rugit. Un lion qui rugit, c'est, on l'entend alors, en 5 km. 5 km, un lion qui rugit, à peu près. Ça veut dire que vous êtes ici à SR. Alors, les gens pas du coin, désolé, mais vous êtes ici à. Ça veut dire qu'à Belfort, vous entendez un lion qui rugit. Ça veut dire que l'autre côté, là-bas, à Charleville-Villard, vous attendez le lion qui rugit ici. Ça veut dire que c'est bruyant, ça veut dire que c'est effrayant. 5 km, on entend le bruit. C'est 114 décibels. Pour vous donner une idée, c'est un concert de rock, c'est une discothèque, c'est presque une Formule 1. L'intensité du bruit de lion qui rugit. Le terme d'après, c'est dévorer. Dévorer, en grec, c'est katapino. La traduction pour dévorer, ça peut aussi être traduit par engloutir, avaler, dévorer, accabler, détruire. Je trouve que le mot accablé dans notre culture, il s'applique profondément. Parce qu'on a beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de gens qui connaissent rien à l'évangile, qui sont accablés. Accablés. Et c'est ce que le diable, il cherche à faire, à nous accabler, à nous dévorer, mais aussi à nous accabler. C'est le même terme. Il y a le mot qui rôde. Dans une traduction de la Bible, dans une traduction de Martin, il y a marqué qui tourne autour. Qui tourne autour. Ça veut dire que on est là. Il faut avoir conscience de cette réalité-là, c'est que le diable, il tourne autour. Et une des qualités du diable, il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il est patient. Il est patient. Et il peut tourner autour comme ça longtemps. Longtemps. Et il nous faut avoir conscience de cette réalité. La plus grande victoire du diable en Occident, c'est pas de moi, vous l'avez déjà entendu, c'est faire croire qu'il n'existe pas. On a des gens qui. La plus grande victoire du diable en Occident, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Quand vous êtes dans des pays où il y a la guerre, des pays sinistrés, des pays où tout est catastrophique, où il y a la misère à chaque coin de rue, vous avez l'impression de voir le diable, la méchanceté, la haine et tout ça. Quand on est dans des pays où on a une vie à peu près, voilà, on a la liberté, on a un peu de chauffage, on a l'eau chaude, on a l'eau froide, on a une vie, pour la plupart, on a l'impression que tout va bien, et bien une des victoires du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et comme ça, il pourrait continuer à tourner autour. Et le moment où il y a quelque chose, clac. Jean 10, verset 10, nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que des brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On l'a cité hier, ce verset biblique, et on est tous pareils. On aime tous la deuxième partie de ce verset. Moi, souvent, je cite que la deuxième partie. Jésus qui dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et on oublie parfois un peu la première pensée. La première partie du verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais un voleur, il vient que pour voler normalement. Il prend les affaires. Et là, le diable, il ne fait pas ça. Non seulement il vole, mais il égorge et il détruit. Le but du diable, c'est de détruire ta vie. Si tu ne marches pas avec Dieu, il n'y a pas de problème. Quand tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de problème pour le diable si tu ne marches pas avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, le but du diable, c'est de détruire ta vie. Et ne nous y trompons pas. Ne croyons pas que, parce que, comme on l'a dit, on a le confort de l'église, on a tout ça, ne croyons pas que le diable il nous laisse tranquille. Le diable, il tourne autour. Le diable, il tourne autour. Il y a je ne rentre pas dans les détails, mais il y a 6 manières de faire chez nous, notamment la distraction, on en a parlé un petit peu. Il y a la confusion spirituelle. C'est vrai que comme on voyage de plus en plus, il y a plein d'endroits où vous dites, mais il y a une telle confusion spirituelle. Il faut remettre l'évangile à la bonne place. La division, on le voit souvent. La banalisation du mal et du péché. Une espèce de parfois de persécution douce. Le découragement et la perte d'espérance. C'est des manières que le diable il a d'agir. Alors que faire par rapport au diable qui tourne autour? C'est marqué au tout début, soyez sobre, veillez. Et moi quand j'ai relu ça, alors on l'a tous lu plein de fois, ou beaucoup l'ont lu plein de fois, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait il y a le côté effrayant, pourquoi c'est pas marqué de ne pas avoir peur? Dans la Bible, il y a marqué 360, une fois par jour on dit, qu'il y a marqué des versets, il y a un verset par jour pour dire de ne pas avoir peur. Pourquoi le diable qui ferait autour de moi comme un lion rugissant, il n'y a pas marqué au début, n'aie pas peur? Si moi j'avais écrit, c'est ce que j'aurais mis. J'aurais mis, n'aie pas peur, ça va aller. Et là, c'est pas ce qui est dit. Il est dit, soyez sobre, veillez. Pourquoi? Parce que c'est pas l'attitude à avoir ici. L'action demandée dans ce verset, c'est soyez sobre, veillez. Ce sont des verbes. Et soyez sobre, en grec, c'est nepho. Et je vous ai mis toute une liste de versets où le même mot sur le fait d'être sobre. Parce qu'être sobre, moi je le comprends, il faut pas boire d'alcool. C'est pas ça. Évidemment que c'est pas ça. Donc être sobre, je vous ai mis toutes les références dans le Nouveau Testament où il y a ce même mot qui est utilisé. On va les lire ensemble. Et en fait, c'est, on fait ça, alors je sais pas quelle classe on fait ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un champ lexical, c'est-à-dire des mots qui sont utilisés, ça nous donne le contexte. Donc les 5-6 fois là où on va voir ce mot quand il est utilisé, ça nous donne le contexte pour comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire, soyez sobre. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. 2 Timothée 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et là, c'est le mot vaquer qui est le même sens que sobre, qui est le même terme en grec pour vaquer à la prière. Donc au-delà de dire juste « n'ayons pas peur », et nous n'avons pas peur, il y a plein de versets qui disent « n'ayons pas peur », il y a un côté d'être sobre. Et ce champ lexical, il nous aide à comprendre le contexte. Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. Il faut revêtir les armes spirituelles, et vous avez toutes les références dans Éphésiens également, supporter la souffrance et vaquer à la prière. Soyons sobres, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand il y a un lion qui tourne autour de moi, je n'ai pas peur, mais au-delà, je fais ces choses-là. Je ne dors pas, je revêts les armes spirituelles, je supporte la souffrance et je vaque à la prière. Merci. Amen. Et il y a soyons sobres et il y a veiller. Et veiller, il y a une traduction dans le semeur, une traduction un peu plus simple, qui nous dit ne soyez pas distraits. Et je pense que c'est un des fléaux de notre génération. On est distraits. Tout participe à ce qu'on soit distraits. Et veiller, je vous donne juste cet exemple, c'est que là où je travaillais, nous, il y avait ce qu'on appelle une veille juridique. Veille juridique, ça veut dire que chaque semaine, ben, on a des gens qui, dans les sujets qui nous concernent, ils vont chercher les lois, les décisions de jurisprudence, donc les tribunaux qui ont rendu des décisions, les projets de réforme. Alors aujourd'hui, les projets de réforme, on n'arrive plus à suivre. Mais avant, dans le monde d'avant, chaque semaine, on avait comme une mise à jour de tout ce qui était en train de se passer pour que quand on était avec les clients, on soit au fait de ce qui se passe. Ça, c'est une veille. Veille juridique ou veille technique ou veille, etc. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a ça. Et en fait, pourquoi il y a cette veille dans ce sens-là? C'est pour savoir. C'est pour ne pas être surpris. C'est pour être alerte. Donc ce terme de veiller, quand il y a le diable autour de nous, je pense qu'il y a cette dimension à avoir, d'être alerte, de ne pas être surpris. Dernier point, pour être sobre et pour veiller, comment faire? Et j'ai vraiment ressenti ça sur mon cœur. Il y a plusieurs actions, il y a plusieurs choses, je vous les liste encore une fois, et je vais aller juste à un seul point ce matin, c'est revêtir l'armure de Dieu, je l'ai dit rapidement, c'est résister au diable à se soumettant à Dieu, c'est veiller à être sobre, c'est rester ancré dans l'enseignement des apôtres, tout ça ce sont des versets bibliques, c'est démasquer les mensonges et aimer la vérité, c'est annoncer l'évangile avec courage, c'est cultiver la présence de l'Esprit de Dieu. Tout ça, ça fait partie de ce verbe veiller, vaquer, soyez sobre. C'est ça que ça veut dire. Ces points-là. Évidemment, mais ce matin, je ne les développe pas. J'en développe un seul parce que je suis de plus en plus persuadé que Dieu nous amène là-dedans. Parfois, les gens ne font pas le lien, mais un des points où j'en suis intimement persuadé par rapport à ce lion qui tourne autour, c'est de vivre l'Église locale. C'est de faire le choix d'une vie communautaire. Tu l'as dit tout à l'heure, si j'ai un ami et que j'ai une période un peu moins bonne, ben l'ami, il est là. Le frère à côté de moi, il est là. Je ne leur ai pas posé la question, mais je me suis dit, nous, on a un enfant, si un jour il est à Besançon et qu'il va chez Jean-René et Françoise, s'il fait toc-toc, qu'il vous dit « je suis le petit-fils de Jean-Marie », je pense que n'importe... Oh, ils ont du souci. Non. N'importe quelle heure où il arrive, vous allez lui ouvrir la porte. S'il a besoin de quoi que ce soit, vous allez lui fournir. Michael, pareil, à n'importe quel moment, je sais que mon fils peut aller chez Michael, n'importe quelle heure, il va tout faire pour lui. Et il va faire plus que juste la normale, il va tout faire pour lui. Et alors on n'est pas dans la même église locale aujourd'hui, mais c'est pour vous donner l'image. Et l'église locale, c'est la même chose. Dans l'église locale, si tu baisses la garde, si tu es fatigué, ben ce lion, tu vas sentir qu'il est plus proche de toi. Si tu es dans le troupeau, tu es protégé. Et quand on dit ça, les pasteurs, quand on dit ça, c'est pas pour avoir plus de monde dans notre église. C'est pas ça. Si tu es dans une église ailleurs, sois béni, voilà, sois fidèle dans ton église. Quand on dit ça, c'est qu'il y a une guérison dans l'église locale. Le problème, c'est que parfois, il y a des choses horribles dans l'église locale. De la même manière que dans les familles, il y a parfois des choses horribles qui ne sont pas du tout sur le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où les familles sont souvent déglinguées, l'église l'est parfois aussi, et pour moi, ce sont les deux lieux de refuge, ce sont deux lieux de restauration, ce sont deux lieux où il y a une guérison, ça nous aide à guérir, ça nous aide à vivre, ça nous aide à être ressourcés, la famille et l'église, quand ça fonctionne comme il faut, pour pouvoir après faire le service de Dieu. J'ai tellement pris de ressources dans la louange, dans le partage avec mon frère, avec ma sœur, que dès que je sors, je peux faire le job, le service que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Le lion, il isole sa proie si le troupeau est trop nombreux. Alors, vous allez me dire, on lit la Bible, on lit que la Bible pour préparer une prédication. J'ai lu plein de trucs sur le lion pour préparer la prédication. Ils sont super organisés, je ne savais pas. Quand ils attaquent, chacun a son rôle, etc. Mais parmi les choses, si le troupeau est trop nombreux, ben quand la proie, et on le comprend, quand la proie est isolée, elle est en fragilité. Parce que c'est beaucoup plus facile de... beaucoup plus facile quand la personne ou la proie est isolée. Dans l'église, il y a une protection dans l'église locale. Il y a un enseignement, il y a une vérité qui est prêchée, il y a une adoration qui chasse les doutes, il y a des témoignages qui augmentent la foi, il y a des signes et des prodiges, il y a l'obéissance à Christ qu'on apprend. Tu remplis ta destinée, il y a une beauté, il y a une gloire et il y a une guérison dans le corps de Christ. Il y a une guérison quand ta relation avec Dieu et la relation avec les autres est saine. J'en suis tellement persuadé. Aujourd'hui, j'essaye de traiter les mails qu'on reçoit pour l'église. On a énormément de mails, vous n'avez pas d'idée. Et ce que je me dis très souvent, c'est si les gens qui m'écrivent, ils avaient une vie d'église normale, ils ne m'écriraient pas. S'ils faisaient partie d'un groupe de maison, s'ils avaient une vie communautaire, s'ils louaient le Seigneur, ils entendaient la parole de Dieu, ils priaient avec des frères et des sœurs, ils ne m'écriraient pas. Parce que la guérison, elle vient quand tu fais partie de l'église locale. Et les gens qui nous suivent, très souvent, je leur dis, vous nous aimez beaucoup parce que vous nous regardez à distance. Si vous étiez là au quotidien, ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'on n'est pas une église, on est loin d'être une église parfaite. On est loin de ça. Par contre, on est intimement persuadé et passionné par l'église locale. Et quand on dit aux gens, il faut faire partie d'une église locale, il faut vivre la communauté, ce n'est pas juste venir, c'est en adhérer, en faire partie, avoir des relations. Moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne, et vraiment, Dieu me l'a... C'est l'épouse de Christ, quoi. On n'est pas en train de parler de bâtiment. J'ai passé des heures. Des heures. Et en même temps, j'ose vous dire que ce n'est pas mon problème, le bâtiment. C'est les gens, c'est la communauté des gens qui est là. En tant qu'ancien au ministère, nous veillons à ce que ce soit un lieu de refuge et de restauration, de ressourcement pour transformer le monde autour de nous. Et vraiment, on le vit tous comme ça, et c'est ce qu'on veut du plus profond de notre cœur. On veut une réforme autour de nous. La réforme, elle passe par les ressources qui sont prises dans l'église locale pour pouvoir partager autour de nous. Amen. J'ai quasiment fini. C'est le seul endroit où il y a des gens à qui on n'aurait jamais parlé. Alors Dieu m'a transformé, maintenant je parle à tout le monde. Mais avant, c'est le seul endroit où on parle à des gens à qui on n'aurait jamais parlé, hein, réellement. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des gens des Antilles qui ne savent toujours pas où sont les Antilles, il y a des Alsaciens, il y a des gens avec tellement de dons, il y a le côté multicolore de Dieu, on le retrouve dans l'Église. Enfin, il y a tout dans l'Église. Il y a toute l'humanité, il y a des vécus différents, il y a des traumatismes différents, il y a des familles tellement différentes. Et en même temps, on a un même cœur, une même voix, une même adoration, une même passion pour Jésus-Christ. Amen. J'allais leur dire de monter, c'est formidable. Et ce matin, j'ai deux sujets de prière. Il y en a un, c'est une parole prophétique qui a été donnée sur le fait d'abattre les forteresses. Et je pense, pour rencontrer beaucoup de gens qui ont été blessés par les églises, alors il y a aussi des pasteurs qui ont été blessés par les gens, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais il y a des gens qui ont été blessés par les églises. J'ai envie de te dire oui, et avec ma femme aussi, je me suis disputé. Avec mes parents aussi, je me suis disputé. Ça reste mes parents et la relation, elle est toujours là. Donc, et je crois vraiment que cette parole prophétique, on peut la prendre dans ce sens-là. Vraiment, s'il y a des gens qui ne sont pas passionnés par l'église locale, de le devenir, des gens qui sont blessés par l'église locale, simplement devant Dieu de demander pardon et d'adhérer et de vivre l'église locale. C'est le plus bel endroit au monde. Et je pèse mes mots, c'est le plus bel endroit au monde. Il y a des gens mais qui vont vous fatiguer tellement, mais c'est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Et j'ai foi ce matin pour des gens qui n'ont pas ce côté « je suis passionné par l'église locale ». Que ce soit celle-ci ou celle du voisin, hein, voilà, vous êtes quelque part. Mais je suis passionné par l'église locale. C'est génial. Et j'ai la foi ce matin qu'on va prier pour des gens qui vont recevoir cette passion pour l'église locale. Honnêtement, moi, les gens... Alors moi, j'ai un bug, c'est que je ne reconnais pas les visages. Mais j'aime les gens. Je me dis, toi, je t'aime bien. Mais j'aime les gens. Et l'église locale, c'est l'endroit où on va louer Dieu, où on loue Dieu. C'est l'endroit où on est enseigné, où on est nourri, où on est fortifié. Et où ce lion autour de nous, on n'en a rien à faire. Amen.